comment un simple maillot de foot peut réussir à redéfinir l'identité mondiale de tout un pays. Et ça, plus vite et plus efficacement que des décennies de diplomatie traditionnelle.
C'est une excellente question. Et le contraste est fort.
Ouais, parce que pendant qu'on observe ce triomphe sportif, eh bien les chirurgiens les plus brillants de cette même société se retrouvent, disons, collectivement incapables d'organiser des simples réunions pour défendre leur propre métier.
C'est vrai que c'est fascinant.
Il y a une friction incroyable ici. Bon, décortiquons un peu tout ça.
Absolument. En fait, c'est le paradoxe central qui émerge quand on tente de faire la radiographie d'une société qui arrive à un vrai point de bascule. Les documents de notre exploration en profondeur aujourd'hui, qui sont tirés du magazine Aïe Débat du 5 juillet 2026, mettent vraiment en lumière un monde qui navigue à vue.
Un monde en pleine mutation, quoi.
Voilà, c'est ça. On observe des mutations sociales super rapides, une classe politique qui semble, lire une carte géographique totalement obsolète, et puis l'apparition de menaces technologiques vraiment furtives.
Et au milieu de tout ça, de façon assez inattendue, une quête d'ancrage spirituel millénaire, juste pour essayer de donner un sens à ce chaos.
Tout à fait, c'est une tentative de retrouver une boussole.
Bon, commençons par ce qui fait vibrer des millions de personnes, le stade de football.
Le meilleur endroit pour prendre le pouls d'une société.
Exactement. Ces textes reviennent sur l'épopée sportive du Maroc et du continent africain en général, depuis le Qatar en 2022 jusqu'au mondial nord-américain de 2026.
Avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
Ah oui, l'Afrique aligne désormais 10 équipes. La Confédération africaine de football, la CAF, impose enfin ses propres règles. Mais au-delà de la perf physique, il y a un phénomène démographique assez dingue.
La fameuse migration inversée.
C'est ça. Le Maroc se présente avec 11 joueurs nés à l'étranger. Le Congo avec 20. 20. C'est plus juste un choix de cœur. C'est un projet sportif ultra crédible.
Et c'est là qu'on dépasse le simple sport.
Ouais, on a l'impression enfin d'observer une start-up qui aurait réussi un rebranding fulgurant de toute une nation. Le tout en un mois de compète. Mais du coup, j'ai une question.
Je t'écoute.
Une équipe de sport, ça peut vraiment porter sur ses épaules toute la complexité d'une identité nationale? Je veux dire, arabe, amazigh, africaine, moderne, sans que ça devienne une image trop simpliste, un peu comme une belle affiche publicitaire?
C'est une crainte légitime. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le football ne simplifie pas. Au contraire, il cristallise.
Il cristallise, c'est-à-dire?
En fait, l'une des analyses propose une lecture basée sur la sémiologie, donc l'étude des signes. Historiquement, un pays comme le Maroc pouvait avoir une image très floue à l'international. Les documents rappellent même qu'on le confondait parfois avec Monaco, par ignorance.
Ah ouais, le classique Monaco-Maroc, ça commence pareil, donc bon.
Voilà. Mais aujourd'hui, le maillot national, c'est devenu le symbole de ce que le sociologue Benedict Anderson appelle une communauté imaginée transnationale.
D'accord. Donc concrètement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de résider sur le territoire physique, ni même d'y être né pour ressentir viscéralement qu'on appartient à cette communauté.
C'est exactement le cœur du phénomène. Le stade, il devient un théâtre. Il offre une esthétique de la reconnaissance à des nations souvent marginalisées dans le grand récit mondial.
Ouais, c'est une forme de revanche pacifique.
Tout à fait. Quand tu as des joueurs nés dans la banlieue de Madrid ou formés à Amsterdam qui choisissent de porter ce maillot, ils soldent en quelque sorte une dette symbolique envers la terre de leurs parents.
C'est beau vu comme ça.
Une identité qui était morcelée, dispersée, devient soudainement une force hyper unificatrice. Et le public devient acteur. Les maires dans les tribunes, les prières, la ferveur, c'est une vraie performance identitaire.
Et le contraste avec le passé est frappant, hein. L'une des chroniques des sources évoque le mondial de 1970 au Mexique.
Ah oui, l'époque de la télé en noir et blanc.
C'est ça, hein? À l'époque, la télé, c'était un privilège absolu. L'auteur raconte comment tout un quartier s'agglutinait autour d'un seul poste pour voir le fameux but de Ouman contre l'Allemagne.
Une autre dimension du temps et de l'espace.
Ouais. Et en 2026, la victoire contre les Pays-Bas, ça provoque une onde de choc instantanée, relayée par des milliards de connexions. On comprend bien comment la culture pop et le sport façonnent l'estime collective d'une société.
Et comment les autres nous perçoivent aussi.
Absolument. Mais là où ça devient grinçant, c'est que pendant que le foot capte parfaitement cette nouvelle réalité diasporique, la sphère politique, elle, semble avoir gardé un vieux logiciel.
Un logiciel très, très périmé, oui. Le décalage est vertigineux.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est comme utiliser un GPS des années 90 dans une ville de 2026. Il roule avec confiance, mais il fonce dans les murs.
C'est une très bonne image. L'analyse politique décrit d'ailleurs ce qu'ils appellent une société introuvable du point de vue des élites.
Pourquoi introuvable?
Parce que les élites s'adressent à la population en utilisant, ce que l'anthropologue Marcel Mauss appelait la grammaire du don et de la dette.
Faisons une pause là-dessus, si tu veux bien. Pour vulgariser un peu, cette histoire de don et de dette, c'est le vieux système clientéliste. Non, le politicien donne un poste ou construit une route, et en échange, le citoyen a une dette de loyauté, son vote, quoi.
Dans les grandes lignes, oui, c'est ça. C'est un mécanisme de réciprocité informelle. Avant, ça s'appuyait sur des réseaux tribaux ou des notables locaux.
Le politicien donne, la communauté est redevable.
Exactement. Sauf que la société de 2026, elle ne ressemble plus du tout à ça. Aujourd'hui, on a des jeunes diplômés chômeurs qui rejettent totalement cette loyauté aveugle.
Ouais, on a aussi des femmes actives qui gèrent seules leur foyer, des urbains de première génération qui n'ont plus rien à voir avec ces anciens réseaux.
Et sur eux, la grammaire du don, ça ne fonctionne absolument plus.
Mais du coup, je me fais l'avocate du diable. S'agit-il vraiment d'une incapacité de ces politiciens à lire la nouvelle société? Ou bien est-ce que c'est un refus délibéré de changer parce que l'ancien système leur profite encore?
Si on relie cela à une perspective plus large, c'est le drame des institutions formées par l'État. En fait, les élites pensent avec les catégories de l'État.
Une sorte de formatage intellectuel, en somme?
C'est ça. Ils administrent au lieu de diriger. Les sources font bien la différence entre un gestionnaire qui fait tourner la machine et un leader, genre De Gaulle ou Mandela, qui transforme la société.
Et le temps médiatique, le buzz, a remplacé la vision à long terme.
Complètement. Le Maroc risque d'ailleurs de rater le tournant technologique, un peu comme il a raté la mécanisation par le passé.
Ce qui avait mené au protectorat, faut-il le rappeler. Et sur la question du temps médiatique versus politique, l'exemple du GMT dans les documents est flagrant.
Ah, la fameuse question de l'heure d'été ?
Ouais, le retour à l'heure GMT annoncé pour septembre 2026, après 8 ans de GMT plus 1. Officiellement, c'est présenté comme un soulagement chronobiologique.
Mais dans les faits ?
Dans les faits, c'est perçu par l'opinion comme un hold-up électoral, un aveu d'échec total du gouvernement. Il n'y a eu aucune démarche scientifique transparente, c'est juste du bricolage.
Et ça illustre parfaitement cette paralysie. Mais ce qui est frappant, et les sources le soulignent bien, c'est que cette paralysie ne frappe pas que les politiciens.
Non, ça contamine même des professions intellectuelles qu'on croyait intouchables. Ce qui nous amène au silence des blouses blanches.
Un passage très révélateur des documents.
Oui, on y apprend que des professions comme les avocats ou les pharmaciens imposent leur tempo au pouvoir public. Ils sont super bien organisés.
Ils ont une représentation forte, c'est clair.
Mais de l'autre côté, les médecins, malgré leur prestige énorme, ils sont dans l'expectative. Ils attendent passivement une loi de l'État pour réformer leurs propres instances ordinales. L'ordre des médecins, quoi.
C'est assez paradoxal.
C'est fou, hein ? Imagine, c'est comme un chirurgien de génie capable d'opérer un cœur à cœur ouvert, mais totalement incapable de gérer le planning de son propre hôpital.
L'analogie est sévère mais juste.
Mais comment c'est possible? Comment des gens aussi puissants peuvent devenir collectivement inaudibles? C'est l'individualisme qui tue la profession.
L'analyse montre que c'est lié à des divisions internes très profondes. Tu as le secteur public, le privé, le militaire. Chacun a des intérêts divergents.
D'accord. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre.
Voilà. Et ils ont perdu cette culture de représentation collective. Or, la force d'une profession réglementée, ça ne vient pas de son nombre ou de son intelligence individuelle.
Ça vient de sa capacité à avoir une vision commune.
Exactement. Attendre que l'État règle tes problèmes internes, au final, c'est abandonner ton autonomie.
C'est une belle leçon. Qu'on soit en politique ou en entreprise, la compétence technique seule, ça ne suffit pas. Sans organisation, on subit les décisions des autres.
C'est la dure loi de l'organisation sociale.
Et pendant que les médecins et les politiciens sont paralysés au niveau local, le reste du monde, lui, avance à une vitesse effrayante, surtout sur des fronts inédits.
On entre là dans la dimension géopolitique des sources.
Ouais, la géopolitique et la technopolitique, les nouvelles règles du jeu. D'un côté, on a une diplomatie classique qui bouge, les textes parlent d'une percée inattendue entre les États-Unis et l'Iran.
Un passage de l'escalade militaire à un pragmatisme stratégique.
Avec un espoir immense pour sécuriser le détroit d'Ormuz, même s'il y a des doutes sur les milices et la réaction d'Israël.
C'est de la diplomatie à l'ancienne, très géopolitique.
Ouais, on signe des traités, on se serre la main. Mais quand on lit la partie sur les périls technologiques, là, on est en plein film de science-fiction.
Sauf que c'est le présent, c'est la guerre de demain.
C'est terrifiant. On y parle de la guerre cognitive, utiliser des micro-ondes ou des phéromones pour neutraliser l'équipage d'un sous-marin. On parle de drones de surface qui ciblent le commerce maritime.
Et n'oublie pas la manipulation météorologique.
Ah oui, l'encensement des nuages.
Jusque-là.
Créer des pluies diluviennes pour noyer des blindés, ou à l'inverse, générer des sécheresses. C'est dingue.
C'est ce qu'on appelle la technopolitique. L'ennemi n'est plus forcément une armée visible.
Et le pire, je crois, c'est l'empoisonnement des bases de données de l'intelligence artificielle. En gros, on détruit virtuellement les neurones d'une IA de l'intérieur.
Un sabotage invisible et redoutable.
J'ai l'impression que c'est comme injecter une maladie auto-immune lente et invisible dans un cerveau numérique. Mais du coup, j'ai envie de te demander, face à ces armes invisibles qui manipulent le climat ou nos cerveaux, se réjouir d'un accord diplomatique classique, comme USA-Iran, c'est pas mettre un simple pansement sur un champ de bataille totalement obsolète.
Cette réflexion soulève une question fondamentale. C'est vrai que concéder que les traités classiques régulent les guerres d'hier, c'est un premier pas.
Parce que les traités ne prévoient pas les nuages toxiques ou les lignes de code malveillantes.
Voilà. La diplomatie doit d'urgence s'adapter à cette technopolitique. L'article sur l'IA rappelle d'ailleurs le bug du missile Patriot en 1991.
C'était quoi déjà ?
Un simple problème de logiciel. Un décalage d'une fraction de seconde qui a empêché l'interception d'un missile.
Une petite erreur de code, des conséquences mortelles.
Exact. Alors, imagine si ces erreurs sont insérées délibérément dans des systèmes autonomes modernes. La nature même de la menace a changé.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? On a d'un côté l'hypertechnologie destructrice, de l'autre des élites politiques et médicales en faillite. Où est-ce qu'on peut trouver une boussole éthique ?
C'est là que les documents prennent un virage fascinant.
Ouais, un virage vers un passé très lointain, le retour aux sources. Plus précisément, le Congrès international sur le soufisme au féminin à l'Académie du Royaume.
Un événement majeur pour démystifier la place de la femme dans le savoir islamique.
Et pas qu'un peu, les sources évoquent plus de 2000 références bibliographiques féminines.
C'est un pan entier de l'histoire qu'on réhabilite.
Des figures incroyables. Aïcha bint Abou Bakr, qui a transmis 2000 hadiths. Fatima Al-Firi, fondatrice d'Al-Karawain au 9e siècle, la plus ancienne université encore en activité.
Il y a aussi Sayyid Anafissa, ou Zeynep bint Kamal al-Din.
Toutes ces femmes portent ce que les textes appellent un soufisme du care, de l'empathie, de la bienveillance, de la justice. Une façon d'améliorer l'humain de l'intérieur, un peu comme l'enseignait la sainte Rabia al-Adawiya.
Le care, c'est vraiment cette solution réparatrice face à nos défis actuels.
C'est magnifique. On dirait une mise à jour logicielle essentielle, tu sais, un truc qui était sur le disque dur de la civilisation depuis des siècles, mais qu'on avait juste refusé d'installer.
L'image du logiciel est très à propos.
Mais je vais encore faire mon avocate du diable. C'est une belle histoire, oui. Mais concrètement, comment un cadre spirituel millénaire basé sur l'empathie peut sérieusement contrer des menaces modernes, genre des drones marins autonomes ou une IA empoisonnée ?
C'est une objection tout à fait rationnelle. Mais il faut comprendre que la technologie n'est qu'un outil.
Elle n'a pas de volonté propre.
C'est ça. C'est l'éthique de la personne qui la code ou de la personne qui la déploie qui détermine sa dangerosité.
D'accord. Donc, on n'arrête pas un drone avec de la bienveillance, on forme celui qui fabrique le drone à avoir une conscience.
Exactement. Réhabiliter cet héritage spirituel féminin, c'est injecter une éthique de la responsabilité et de l'empathie là où le monde moderne pêche par excès de rationalité froide.
C'est agir à la source.
Oui, on a besoin de cette éthique pour encadrer nos surpuissances technologiques. Sans boussole spirituelle, la technique pure nous mène dans le mur.
C'est un sacré voyage conceptuel qu'on vient de faire.
Si on résume, on est parti des stades d'Amérique du Nord qui redéfinissent les identités mondiales.
On a traversé les impasses de nos politiciens et de nos médecins.
On a frôlé les guerres climatiques invisibles pour finalement trouver un refuge éthique dans les enseignements des femmes savantes du 9e siècle.
Ça fait réfléchir. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion inédite pour conclure notre plongée au cœur de ces documents.
Je t'écoute.
On parle beaucoup du manque de leadership de nos élites. Mais si le véritable leadership du 21e siècle, c'était pas du tout la maîtrise des algorithmes ou la victoire aux élections ?
Ça serait quoi alors ?
Et si le dirigeant de demain devait être un hybride inattendu ? Quelqu'un qui serait capable de coder une intelligence artificielle avec une rigueur absolue, mais qui aurait en même temps la profondeur éthique et l'empathie d'une mystique soufie du 8e siècle.
C'est une vision très forte.
C'est peut-être là, exactement à cette intersection entre l'hypertechnologie et la spiritualité antique, que se cache la survie de notre société.
Une belle piste de réflexion pour l'avenir.
On laisse cette idée germer chez ceux qui nous écoutent. C'est la fin de notre exploration en profondeur. Merci de l'avoir partagée avec moi. On se dit à très vite pour de nouvelles analyses.